faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vase d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Alors nous allons continuer notre enseignement sur l'amour et plus précisément l'amour du... Voilà, le deuxième grand commandement, semblable au premier, dit l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Amen. C'est un grand commandement, c'est le plus grand, c'est le plus important. Et nous avons dit la dernière fois pourquoi Dieu considère ce commandement comme le plus important. Les commandements de Dieu ne sont pas des principes qu'il donne au hasard, parce que simplement ça lui fait plaisir. Lorsque Dieu demande à l'homme d'avoir une attitude, c'est parce qu'il sait que c'est dans ce comportement, c'est dans cette manière d'agir que l'homme sera épanoui, l'homme sera équilibré. Amen. Dieu ne perd rien ou il ne gagne rien à ton obéissance ou à ta désobéissance à la parole de Dieu. Ça ne fait rien, ça ne diminue pas sa grandeur, ça ne diminue pas sa puissance, ça ne diminue pas sa force. C'est lui qui t'a créé, il sait comment il t'a créé, il sait quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses et il te donne des recommandations. De même que un fabricant d'un appareil, d'une voiture, de tout appareil, donne les conditions d'utilisation de l'objet qu'il vous a vendu. Dieu qui nous a créé nous donne les conditions de l'utilisation de nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de principes et de choses que tu dois appliquer. Mais la première des choses que tu dois commencer à appliquer, c'est le principe suivant, tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Et c'est ça un peu les différents points d'importance que nous avons cités la dernière fois. Il dit qu'il y a un principe qui fait mouvoir l'homme, qui lui donne la paix, qui lui donne la joie, qui lui donne le bonheur, qui lui permet l'équilibre. Ce principe-là est comme un fleuve, c'est quelque chose d'invisible. La Bible appelle cela la vie. Dis avec moi la vie. Dans le grec, c'est le mot « zoé ». Quand on parle de la vie éternelle, c'est donc c'est « zoé », éternel, c'est « agnonios ». Amen. Donc, « zoé », c'est la vie. Jésus pouvait dire à les personnes, « Vous êtes morts, quoique vivants. » La Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas parce que je marche sur la terre, je mange et je dors que je suis vivant. Je peux être déconnecté du principe de la vie. La vie vient de Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, il va dire, en elle, dans la parole, était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Donc, c'est la vie qui éclaire tout homme. C'est la vie qui permet à une personne d'être épanouie. C'est la notion de la vie. Lorsque la vie est absente, c'est là qu'apparaît la maladie, les guerres, les haines, les blessures intérieures, les souffrances émotionnelles sont des symptômes d'un manque de vie. La haine est le symptôme, est un signe qu'on n'a pas la vie, qu'il y a un problème avec la vie. Lorsque la vie circule, elle donne au corps humain d'être en bonne santé. Elle guérit l'âme, elle guérit l'esprit. Maintenant, cette vie-là, elle nous vient de Dieu. Amen. Dieu nous la donne. Pour que la vie puisse quitter Dieu pour nous atteindre, il nous faut créer un canal, un cheminement. Ce cheminement-là, spirituellement parlant, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour qu'on a pour Dieu est le canal par lequel la vie quitte Dieu pour venir en nous. C'est pourquoi il dit, c'est le plus important commandement. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne manifestes pas ce canal-là pour Dieu, entre Dieu et toi, la vie ne viendra pas en toi. Donc si tu es mort, on ne peut plus rien te demander. Tu ne peux pas demander à un mort de faire quoi que ce soit. Donc tu as la vie et la vie vient en toi. Mais la vie ne doit pas s'arrêter à toi. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Ça veut dire quand je crois en Jésus, il y a les fleuves d'eau vive qui arrivent à moi et qui coulent de mon sein et qui deviennent une bénédiction pour les autres. La vie ne doit pas rester à votre niveau. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de votre communion avec Dieu. Parce que votre vie de prière, votre vie de jeûne, de méditation, etc. sont les principes qui vous rattachent à la vie qui vient de Dieu. Mais la vie ne doit pas rester à votre niveau. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Tu dois la faire transiter, elle doit transiter par toi. Elle doit t'arroser et puis tu dois aussi arroser les autres. Si tu n'arroses pas les autres, que la vie s'arrête à Dieu, entre Dieu et toi, elle meurt. Ça va se transformer en la mort quelque temps plus tard. Amen. C'est comme un fleuve, il doit couler. Alléluia. Et pour communiquer cette vie-là à autrui, il faut aimer les autres. Ça veut dire, toute action que tu dois faire, que tu vas faire pour une autre personne, à l'endroit d'une autre personne, doit être conduite par une attitude d'amour. Amen. En voyant les passages qui viennent, les chapitres de ce jour, nous allons mieux comprendre comment est-ce qu'on aime maintenant le prochain. C'est quoi aimer le prochain? Parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on pose qui ne sont pas l'amour du prochain. Et nous en verrons ces choses-là aujourd'hui. Amen. Dimanche dernier, j'ai cité à peu près 5 raisons pour lesquelles nous devons aimer. La première, j'ai dit, l'amour est le commandement royal. Jacques chapitre 2, verset 8, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Car je rappelle, nous avons déjà traité le chapitre « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta capacité, de toutes tes pensées. » On l'a traité déjà. Maintenant, nous sommes à la partie suivante. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, pourquoi est-ce que je dois aimer mon prochain comme moi-même? Premièrement, parce que c'est la loi royale. Jacques chapitre 2, verset 8. C'est la loi qui règne sur toutes les autres lois. Appliquer cette loi vous permet d'appliquer toutes les autres lois. Amen. Deuxièmement, parce que c'est aimer son prochain comme soi-même permet de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Toutes les promesses que Dieu vous a faites concernant l'épanouissement de vos enfants, concernant l'épanouissement de votre famille, concernant votre vie professionnelle, concernant tous les commandements, toutes les promesses rattachées à l'élévation pour lesquelles le Seigneur dit « Je ferai de toi la tête et la queue ». Toutes ces promesses-là ne peuvent pas s'accomplir si elles viennent de Dieu en dehors de l'amour. Amen. Mais pas seulement de l'amour de Dieu, mais de l'amour aussi de votre prochain. C'est votre relation avec autrui. C'est la façon dont vous traitez les hommes qui sont autour de vous qui va vous conduire au sommet. Dieu ne vient pas prendre une personne comme cela pour te dire subitement « Tu es le PDG de la plus grosse société au monde ». C'est ton attitude relationnelle avec les gens qui va t'emmener au sommet ou pas. Amen. Donc Dieu peut beau te dire « Tu seras la tête et non la queue ». Mais en tout cas, de Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est réveillé un matin et puis il est la tête. Il a prié. Et puis dès qu'il sort, toi, tu es le futur roi. On sent que c'est toi le président. Tu es le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Viens. Quand Dieu nous a... La nuit, Dieu s'est révélé à nous tous pour nous dire que tu es la tête maintenant. C'est toi qui dois commander. Ça n'existe pas. Donc quand Dieu va vous dire, je te conduirai au sommet. Lorsque Dieu te dit « Je vais te conduire au sommet », il te l'a dit parce que tu es en communion avec lui. Ton amour pour lui, lui permet de se révéler à toi. Mais, pour que maintenant sa promesse de t'envoyer au sommet s'accomplisse, ça va dépendre de ta relation avec ceux qui sont autour de toi. Dieu dit à Joseph « Je te conduis au sommet ». Joseph arrive en prison. Mais c'est la façon dont il a traité ses collègues prisonniers. C'est ce qui lui a ouvert les portes du palais. La Bible dit le matin, il s'est levé... Il voit deux personnes qui ont fait des songes. Lui, il avait le don d'interpréter les songes des gens. Et il écoute les serviteurs de Pharaon. S'il était aigri, prends la métume. Il dit, mon frère, nous tous sommes en prison ici. Je m'en fous de ton songe, va-t'en. Mais la Bible dit, Joseph se levait le matin. Il voit ses amis de prison qui sont dans un état moral bas. Il s'inquiète pour leur vie. Il dit, mon ami, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es attristé? Et c'est là que l'on explique son songe. Il dit, ah, voilà ce que ton songe signifie. Et puis il demande à l'autre, mais toi aussi, pourquoi? L'autre explique son songe. Il dit, ah, toi, ton songe là, voilà ce que ça signifie, mais ce n'est pas bon pour ton futur. Ah, il dit, c'est bien. Et c'est celui-là qui s'est retrouvé au sommet, qui s'est fini par se souvenir de Joseph. Donc, la prophétie selon laquelle Joseph allait régner se trouvait dans l'attitude qu'il avait avec quelqu'un qui allait passer à proximité de lui. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, les prophéties ne s'accompliront jamais. Vous allez venir voir le gars avec vous dans la prison, tu dis, un prisonnier comme ça. On dit, mais toi, si tu es en prison, tu dis, non, moi, on m'a accusé à tort. Mais ces gars-là, ils sont bizarres. On voit que Joseph, dans la prison, a eu de la compassion. Mais, parce que dans les deux prisonniers, il y avait un malfaiteur et il y avait un qui avait été accusé faussement. Même pour le malfaiteur, il avait de la compassion. Et pour celui qui a été accusé à tort, il lui a aussi expliqué la prophétie. Il s'est inquiété de leur vie. Il les a vus de mauvaise mine, avec une mauvaise mine. Il n'a pas été égoïste. Il a vu des gens tristes. Il dit, moi Joseph, je n'ai pas envie d'être attristé. Et si je vois quelqu'un qui est triste, je vais m'inquiéter de sa vie. Qu'est-ce qu'il recherchait? Est-ce que ces gens-là pouvaient lui donner l'argent? Entre prisonniers, est-ce que tu peux m'aider? Non. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? On m'accuse de viol. Joseph ne voit même pas par quel chemin il va sortir de la prison. Donc lorsqu'il s'est approché de ces personnes, ce n'était pas de manière intéressée. C'était tout simplement parce qu'il avait développé dans sa vie l'intérêt pour les autres. L'intérêt pour le bien-être des autres personnes. Amen. Si vous n'aimez pas votre prochain, si vous ne travaillez pas ces choses-là, les promesses et les prophéties ne pourront pas s'accomplir. Dieu va beau vous dire toutes sortes de choses. Je te donnerai de l'argent. Tu vas financer le royaume de Dieu. Ça ne se manifestera pas si vous n'apprenez pas à régir votre relation avec autrui selon les principes divins. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et on a dit ceci, on a dit, aimer son prochain comme soi-même permet de connaître Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. La Bible dit que celui qui aime son prochain comme lui-même connaît Dieu. Donc si tu veux avoir la connaissance de Dieu, si tu veux avoir la connaissance de Dieu, tu dois travailler ton relationnel avec les autres. Je veux dire, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu lis la Bible, tu as une révélation de Dieu. Mais découvrir le Dieu grand, le Dieu puissant, ne se découvre pas dans la prière. Dans la prière, on a la révélation. Mais la puissance de Dieu, tu vas la découvrir dans tes relations avec autrui. Lorsque Dieu t'utilise pour guérir les malades, pour faire marcher les paralytiques, ça c'est ta relation avec les autres. Et c'est dans ta relation avec autrui que tu découvres la puissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu ne se voit pas réellement dans la prière. Dans la prière, on a la révélation. Dans la méditation de la parole, on a la révélation. Mais connaître Dieu, comprendre Dieu, ne se voit que dans le relationnel, dans le type de relation que nous entretenons avec les autres. Et si nous aimons les autres, nous allons découvrir Dieu. Et si nous découvrons Dieu, alors tout va bien dans notre vie. Amen. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que aimer le prochain, c'est simplement aimer Dieu. Jésus a dit à ces personnes-là, vous ne m'avez pas aidé pendant que j'étais dans les difficultés. Il dit, mais quand est-ce qu'on a refusé de t'aider, toi Jésus? Il dit, mais le pauvre qui était dans la rue, quand vous ne l'avez pas aidé, c'est moi Dieu, c'est moi Jésus que vous n'avez pas aidé. Donc Dieu s'aime et Dieu, on bénit l'Éternel, on est en train de servir Dieu, on est en train de faire l'œuvre de Dieu lorsque nous aidons les autres qui sont autour de nous. Amen. On donne à Dieu, on donne un vêtement à Dieu lorsqu'on aide celui qui est dans les difficultés à côté de nous. Amen. Amen, amen. Aimer son prochain nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois. Aimer l'autre permet de nous découvrir. Jésus a dit aux pharisiens, aux juifs qui avaient amené la femme adultère, il a dit ceci, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui lancer la pierre. La question de Jésus a amené ces personnes-là à s'interroger sur leur propre vie et à s'interroger sur leur capacité ou bien sur leur dignité, à savoir, est-ce qu'eux, ils méritaient, ils étaient dignes de lancer la pierre à cette femme. La question de Jésus, il dit, mais si vous ne vous condamnez pas pour vos péchés, pourquoi voulez-vous condamner l'autre? C'était, comme je l'ai dit la dernière fois, une autre manière de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il avait dit, avant de tuer cette femme parce qu'elle a commis l'adultère, vous-même jugez-vous. Si vous développez le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous allez être amené à vous juger constamment. Parce que respecter ce commandement-là vous amène toujours à vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait pour moi? Qu'est-ce que j'aurais fait pour moi? Qui suis-je? Et ce n'est qu'en aimant votre prochain, en appliquant ce commandement, que vous finissez par découvrir vos dons, vos talents, votre potentiel et ce que Dieu a déposé en vous. Que suis-je en train d'expliquer? Tous les trésors que Dieu a déposés en vous ne peuvent arriver à la surface que lorsque vous vous mettez à travailler avec les autres, quand vous commencez à développer votre patience avec des gens bizarres, ça vous aide à être meilleur. Quand vous avez des collègues compliqués et que vous apprenez à les aimer, vous devenez vous-même meilleur. Vous découvrez qui vous êtes, vous découvrez vos forces. Mais quand vous fuyez vos prochains parce qu'ils sont bizarres, parce qu'ils parlent mal, quand vous les évitez, quand vous n'avez pas de la compassion pour eux, quelque part, vous êtes privé vous-même de vous-même. Vous êtes privé de la propre connaissance de votre personne. Amen. Celui qui aime son prochain comme lui-même et qui travaille à appliquer ce commandement finit par se connaître et par découvrir les talents extraordinaires que Dieu a déposés. La Bible dit que Dieu a déposé un trésor en nous. Amen. Et le monde, la création entière, attend la révélation du trésor qui est en toi. Quand la Bible dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, le passage est simplement en train de dire, en fait, il y a quelque chose de très glorieux qui est en toi. Donc, si cette chose-là ne s'est pas encore manifestée, c'est tout simplement parce qu'il y a un voisin avec qui tu n'es plus patient. Il y a un prochain que tu n'arrives plus à traiter, que tu as exclu. Et donc, ta patience, ton attitude de douceur, parce que la Bible dit l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour pardonne tout. Donc, lorsque tu arrêtes de pardonner, tu tues le trésor qui est en toi. En fait, tu l'empêches de se manifester. Mais plus tu vas travailler ton pardon, plus le trésor qui est en toi sera manifesté. Toi-même, tu ne te connais pas. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es capable de faire. Je t'assure que tu t'ignores. Je te promets que tu ne te connais pas. Tu ne sais même pas ce que tu peux faire. Dis à un voisin, regarde-le. Dis, est-ce que tu te connais? Il a envie de dire, je me maîtrise, je me connais. Dis, tu ne te connais pas. Dis-lui, si tu savais ce qui était en toi. Non, dis-lui, si tu savais ce qui était en toi. Donc, ma soeur, tu as besoin de te découvrir. Mon frère, tu as besoin de te découvrir. Mais ce n'est pas en faisant une introspection sur toi-même. Ce n'est pas en étant égoïste que tu vas te découvrir. Ton prochain te ressemble. C'est en travaillant sur la vie d'autrui que tu te découvres toi-même. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, et la vie, l'amour du prochain permet de communiquer la vie autour de nous. Et nous avons dit ceci, pour aborder maintenant la partie d'aujourd'hui. Qui est le prochain? Qui est le prochain? C'est qui notre prochain? Dans le vocabulaire ou dans le langage usuel, nous interprétons souvent le mot prochain comme étant tout le monde. Ce n'est pas faux, mais de la façon dont nous interprétons cela, ça trompe notre application de ce commandement. Comme je l'ai dit la dernière fois, le mot prochain signifie la personne la plus proche ou parle de proximité. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque je m'arrête là et que je dis dimanche prochain, je suis simplement en train de dire que le dimanche le plus proche du jour dans lequel je suis. Jésus a dit donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit aussi, tu vas aimer tes ennemis. Amen. Mais il n'a pas sorti le mot directement, forcément, tu vas aimer tes ennemis comme toi-même. C'est très différent. Tu vas l'aimer. Non. Le verset, c'est le verset. Le deuxième commandement, c'est ton prochain, aime-le comme toi-même. Si ton prochain est un ennemi, aime-le comme toi-même. Si ton ennemi n'est pas proche de toi, aime-le. Parce que tu as des ennemis éloignés. Parce que quand on a dit ton prochain, il n'est pas question, on n'a pas dit aime tes amis comme toi-même. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit aime ceux qui t'aiment comme toi-même. C'est pas ce qu'il a dit non plus. Il dit aide ceux qui sont dans tes environs, à proximité, comme toi-même. Quel qu'il soit, méchant ou bon, juste ou injuste, des personnes reconnaissantes ou ingrates, tant que des individus sont proches, aime-les comme toi-même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Maintenant, la proximité là, elle évolue dans plusieurs domaines. Il y a la proximité physique. Donc, j'habite dans tel quartier, mon voisin, c'est mon prochain. Parce qu'il est proche de moi. À l'église ici, ta voisine, ton voisin, c'est aussi ton prochain. Tu es aussi proche de tes propres parents. Amen. Ton prochain le plus proche, si tu es marié, c'est ton épouse, tes enfants. Ok. Donc, quelque part, on a beaucoup de prochains. Tout dépend de l'angle dans lequel on les regarde. Amen. Mais généralement, le prochain est une personne qu'on ne peut pas ignorer parce qu'elle est, on a conscience de sa présence là. Alléluia. Alléluia. On ne choisit pas les prochains. On découvre qui sont proches. C'est une découverte et non un choix. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que j'ai reçu quelques mails, des gens qui posaient la question. Lui là, parce qu'on va prêcher dimanche. Donc, il y a telle soeur qui m'a fait ceci, elle n'est pas mon prochain. J'ai dit non. Ne faites pas d'interprétation. Attendez que je finisse l'enseignement. Amen. Alléluia. Dimanche prochain peut ne pas te plaire, mais dimanche prochain, mon frère, c'est dimanche prochain. Le jour prochain, c'est lundi. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne nouvelle dans le lundi, mais lundi, là, c'est le prochain des dimanches. Donc, ce n'est pas une affaire de ça me plaît ou ça ne me plaît pas. C'est un constat. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, dans Luc chapitre 10, verset 29, au verset 28 et au verset précédent, un homme a posé la question à Jésus, mais c'est qui le prochain? Et Jésus lui avait expliqué le commandement, voici le second commandement, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et au verset 29, il répondit, il dit, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Dis avec moi, la compassion. Donc, notez bien la compassion. Amen. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Dis avec moi, propre monture. Dis avec moi aussi, hôtellerie. Verset 35. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Verset 36, Jésus parle alors, il dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Verset 37, Jésus donc répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Amen. Donc, Jésus pose la question, de ces trois-là, qui a été le prochain? Juste pour corroborer ce que je disais, c'est que si le mot prochain s'adressait à tout le monde, il n'y a pas besoin de poser la question de ces trois qui étaient le prochain. Le monsieur dit, qui est le prochain? Et puis Jésus lui raconte une histoire, et puis il dit, bon, de tous ces trois-là, choisis qui est le prochain. Donc, le prochain, ce n'est pas une affaire d'humanité, tous les hommes sont prochains. Évidemment, entre le cheval et puis un homme, ton prochain, c'est l'homme. Donc, entre l'espèce humaine et l'espèce animale, le prochain, c'est l'homme. Je dis le prochain, c'est une notion relative. Si je dis le jour prochain, c'est lundi. Le dimanche prochain, c'est dimanche. Donc, tout dépend dans quel contexte je me tiens. Si je vais parler du mois prochain, donc ça varie. C'est un mot qui est relatif. Amen. Alléluia. Alors, dans cette histoire, on a un monsieur qui quittait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Donc il était sûrement venu à Jérusalem pour adorer. C'était donc sûrement un juif. Les juifs avaient en aversion, ils étaient ennemis d'un peuple qu'on appelle les Samaritains. Rappelez-vous, Jésus étant arrivé dans ces régions-là, les hommes l'ont chassé, ils ont refusé que Jésus vienne dormir dans leur ville, parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Donc ce monsieur-là remonte, et ce n'est pas un Samaritain, c'est un Juif qui est agressé. Il y a un sacrificateur, donc un pasteur, qui passe par là. Il regarde, il dit, ah, ça là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être que les brigands ne sont pas loin. Mais la question à se poser, si toi-même tu étais dans cette situation, n'aurais-tu pas aimé qu'on te soutienne? Le sacrificateur est passé. Un lévite avait dit, un responsable d'un département spirituel. Bon, je ne vais pas citer un département, imaginez un chef de département. Qui passe par là et qui ne s'en occupe pas. Et puis vient un samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé être un éloigné, pas un prochain. Et il est d'une tribu lointaine, avec laquelle on n'est pas censé être en accord. Et c'est celui-là qui vient et qui s'occupe du blessé comme il se serait occupé de lui-même, au point de le mettre sur sa monture. Mais le verset dit, il a eu compassion. Dis avec moi, compassion. Alléluia. Il a eu compassion de quelqu'un qui était censé être éloigné sur le plan de la religion. Ils ne sont pas ensemble dans la tribu. Ils ne sont pas la même ethnie. Ils ne sont pas de la même région. Ils ne sont pas de la même religion. Mais il aime celui qu'il voit. Il a de la compassion pour lui. Il le prend, il le met sur sa propre monture. Ça veut dire qu'il le traite comme il se serait lui-même traité. Il l'amène dans un hôtel. Il s'occupe bien de lui. Alors là, le Seigneur demande, mais qui est le prochain? Et le docteur de la loi est bien obligé de dire, ça a été le Samaritain. C'est-à-dire, je veux dire, ne croyez pas que vos prochains, votre prochain, c'est une affaire de religion, c'est une affaire de famille. Le prochain, ce n'est pas rattaché à ces choses-là. Le prochain, c'est l'attitude que tu as, l'attitude de compassion que tu as avec tous ceux qui gravitent dans ton entourage, tout ce que tu rencontres. Et il dit au docteur de la loi, il n'a pas dit va chercher tes prochains. Il dit, toi là, va et fais de même. Dis à ton voisin, va et fais de même. Va et fais de même. Est-ce qu'on est ensemble? Ça signifie, aie de la compassion pour tout le monde. Quand tu passais sur le chemin, ton prochain, c'était celui qui était couché. Il n'est pas de ton village, mais c'est ton prochain. Il ne prie pas ton Dieu, mais c'est ton prochain. Dieu est en train de dire dans ce passage, que, ah, c'est trop fort la parole de Dieu. Dieu dit que la réalisation de toutes les promesses, parce qu'il dit la loi et les prophètes dépendent de ce commandement. Il dit la réalisation de toutes les promesses dépend du type de compassion que tu as envers les personnes qui sont de ton entourage. Si tu as un voisin qui est bon, aie de la compassion. Tu as un prochain méchant, faut avoir de la compassion. Aide la miséricorde. Il n'y a pas à trier. Le voisin, moi je suis de tel parti politique, lui de tel parti, il n'est pas mon prochain. Il est ton prochain. Va et fais de même. Maintenant, quand il parle de prochain, il veut dire, il ne faut pas être dans une vue d'esprit pour essayer d'imaginer, de penser que ton destin avec quelqu'un qui est jusqu'aux États-Unis. Non. Ton futur se trouve là. Comment dirais-je? Sur le plan valeur, sur le plan comportemental, Joseph est juif. Il a une connaissance de Dieu. Et les personnes qui sont en prison avec lui sont des païens. Elles sont païennes. Mais les voyant dans la tristesse, il est rempli de compassion. Et il décide de les aider. C'est là que ces prophéties se sont accomplies. Dieu amène l'accomplissement de vos promesses dans vos voisins, dans les personnes qui s'approchent de vous. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que ton comportement vis-à-vis de ces personnes va ouvrir ton futur. Si tu méprises les personnes qui gravitent autour de toi, parce qu'un prochain, il te l'a imposé, est-ce que tu peux chasser ton voisin? Tu l'as trouvé, vous êtes là, vous êtes voisin. On va dire non, lui, il n'est pas proche, il est déjà proche. Ton jeune frère, c'est un prochain. Vous êtes prochain par le lien familial. Tu peux pas ne pas avoir de la compassion pour lui. Aimer son prochain comme soi-même, c'est avoir de la compassion et de la miséricorde pour tous ceux qui se retrouvent à proximité de nous. Et ne pas chercher à avoir une compassion pour ceux qui... On les aime, mais ils sont loin. Tu dis, oh, moi, ce que j'ai envie d'aider sont les frères. Qui sont, donne-moi un pays, les frères. C'est-à-dire, au lieu d'aider ton prochain, tu es en train de réfléchir à l'Afghanistan. Quand Dieu m'élèvera, je vais aider les Afghans. Dieu dit, c'est vrai. Commence par aider ton prochain. Ton voisin n'a pas à manger. C'est ton prochain. Aime-le comme toi-même. Toi, tu vas lui donner à manger. Ça ne veut pas dire de ne pas lui donner à manger en Afghanistan ou en Somalie. Ça veut dire commence par ceux qui sont proches de toi. Amen. Celui qui est en Somalie aussi, c'est un prochain. Mais il est moins prochain que ton voisin. Donc ce n'est pas lié à la religion, ce n'est pas lié à l'attitude, ce n'est pas lié au caractère de la personne. Le secret, c'est que Dieu orchestre tes rencontres. Et Dieu met autour de toi des méchants, des bons, des justes, des injustes, des traîtres, des escrocs. Il y a des escrocs qui sont proches. Aime l'escroc comme toi-même. Maintenant, c'est là que j'arrive sur les pièges. Ah, c'est là qui dit, ah, parce que qu'est-ce que ça signifie? Mais vous avez des problèmes avec ce commandement parce que vous définissez mal l'amour. Beaucoup pensent que maintenant j'ai touché les pièges, que l'amour c'est la gentillesse. C'est pas la gentillesse. C'est pas la gentillesse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dit, comme l'escroc est là, il faut lui passer tout. Ce n'est pas ce que ça signifie. Si tu comprends le sens de l'amour, tu peux l'appliquer. Mais le mot prochain, qu'on le veuille ou pas, c'est un mot qui parle de proximité. C'est simple, c'est le français. Littéralement, c'est ce que ça signifie. Amen. Et ça signifie que notre destinée, nos prophéties, se sont posées dans les personnes qui sont à côté de nous. Joseph est en prison, ce sont les prisonniers qui sont avec lui là, qui vont déterminer son futur. Ce ne sont pas ses frères qui sont jusqu'en Israël. Son futur était dans ses prochains. Dieu détient vos promesses dans les personnes qui gravitent autour de vous. Ton mariage n'est pas loin de toi. C'est peut-être l'attitude que tu vas avoir avec ton voisin qui va te faire rencontrer l'homme de ta vie. Je n'ai pas dit que ton voisin est l'homme de ta vie. Hein? Amen. Je n'ai pas dit que c'est ton mari. Donc ne vous regardez pas bizarrement. Faites attention. J'ai dit, c'est l'attention, c'est l'attitude de miséricorde, de compassion que tu as envers des personnes qui va t'amener à découvrir ce que tu dois découvrir dans ta vie. Ce qui ferme tes promesses, c'est le mépris envers les personnes qui sont autour de toi en jugeant leurs œuvres. Ça veut dire, celui qui n'a pas de compassion, il méprise les gens. En temps normal, le samaritain devait mépriser celui qui était malade. Voilà des gens comme ça. Ils disent, ils sont en train de prier Dieu. Un juif, il remonte de Jérusalem. Voilà, on l'a tué ici. Là, on t'a blessé. Vous êtes là, vous priez, vous priez. Si tu pries là, pourquoi les brigands t'ont attrapé? Et puis, il aurait pu passer. C'est pas comme ça. Dieu dit non. Non. Même si les juifs ne s'entendent pas avec les samaritains, mais là où tu passes, dans ce environnement-là, c'est le seul homme qui est là. Il est en difficulté. C'est vrai qu'il n'accepte pas ta foi. C'est vrai que vous ne partagez pas les mêmes choses. Mais quand même, ce que tu aurais fait pour toi, ce que tu souhaites pour toi, fais-le pour lui. Amen, amen. Amen. Ce samaritain, peut-être que c'est ce qu'il a envoyé au ciel. Parce qu'au moins, nous tous, on connaît son histoire dans la Bible. Vous me suivez? Il aurait été insignifiant dans l'humanité. Mais aujourd'hui, son histoire nous aide beaucoup. Parce qu'il a posé un acte. Son destin, sa prophétie était ce jour-là avec ce malade qui l'a aidé. Jésus a dit, je suis venu à côté de toi sans manger. J'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. Tu dis, mais à quel moment je t'ai vu dans cet état-là et j'ai refusé de te donner à manger? Il dit, quand tu ne l'as pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Tu dis, ah Seigneur. Il dit, j'étais en prison. Tu n'es pas venu me visiter. Tu dis, mais Jésus, à quel moment je t'ai vu? Tu étais en prison. Mais si Jésus dit dans ce Matthieu 25, j'étais en prison, ça veut dire qu'il y a des malfaiteurs qui sont proches de nous qui sont en prison. Qui est en prison? En disant j'étais en prison, dans Matthieu 25, c'est qu'il suppose que quelqu'un peut être en prison, mais être proche de nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, bon, je vois qu'il faut que j'accélère. Amen, amen, amen. Maintenant, ce que je viens de dire doit quand même vous faire prendre attention à certains pièges. Il faut faire attention. Dis à un voisin, fais attention. La première chose à laquelle tu dois faire attention, donc, c'est que l'amour du prochain n'est pas de la gentillesse envers le prochain. C'est de la bonté. C'est rechercher le bien de l'autre. Tu es avec ton fils, ta fille, ton enfant a 11 ans. Il vient te demander, « Maman, moi j'aime les motos, achète-moi une moto. » Est-ce que tu vas la lui offrir? Non. Si tu offres une moto de ton enfant, à ton enfant à cet âge-là, c'est peut-être de la gentillesse. Il va dire, « Maman, merci. » Tu as peut-être répondu, tu lui as fait plaisir. Mais tu vas le détruire. Crois, il y a certains qui pensent que aimer, ça veut dire répondre toujours favorablement aux sollicitations des autres. Ce n'est pas vrai. L'amour du prochain, c'est une attitude de compassion. Et d'aimer la personne parce qu'on veut son bien, c'est-à-dire c'est de rechercher le bien de la personne. Donc on peut dire non à des gens. L'amour dit non. La gentillesse ne dit pas non. La gentillesse cherche à faire plaisir aux gens, à répondre à leurs désirs. Il y a des désirs qui ne sont pas bien. Il y a des gens, des personnes qui peuvent venir vous solliciter pour dire, ah, la vieille mère, donne-moi de l'argent, j'ai faim. Mais quand toi-même tu la regardes, tu sais que l'argent que tu vas lui donner ne va pas l'aider. Tu sais qu'il va prendre l'argent pour aller fumer. Si tu l'aimes comme toi-même, pourquoi tu lui donnes l'argent? Est-ce que toi, tu peux prendre la cigarette? Toi, tu vas aller fumer. Si toi, tu ne fumes pas, pourquoi tu vas aider quelqu'un à aller prendre une cigarette? Vous comprenez? Donc, l'amour dit non. La gentillesse ne dit pas non. C'est pourquoi la Bible ne cite pas la gentillesse comme étant un fruit de l'esprit. Quand vous lisez le fruit de l'esprit, il est question, la Bible dit, il parle de la bonté, pas de la gentillesse. Dieu n'est pas gentil, mes amis. Dieu, il n'est pas gentil. Dieu est bon. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous demandez à Dieu, il ne vous donne pas? Tu lui demandes, il ne te donne pas. Tu n'es pas prête pour te marier, il ne te marie pas. Il faut pleurer, il ne va pas te marier. Peut-être que tu vas aller tricher, mais lui ne va pas te marier. Parce qu'il sait que tu vas fatiguer quelqu'un. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Tu vas pleurer, père, père, petit, je me meurs. Lui qui t'a créé, il sait que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il en est conscient. Et vous devez en être conscient. Qu'est-ce que vous avez? Quand vous dites que vous aimez votre enfant, c'est que vous recherchez son bien. Quelquefois, ce qu'il vous demande ne va pas lui faire du bien. Mais votre connaissance de la vie fait que vous êtes conscient que ça ne va pas l'aider. Il y a des gestes aussi de gentillesse qu'on fait pour se débarrasser des personnes. Ce n'est pas de l'amour. Le frère arrive, tu le vois en haillons. Hé, maman, dépanne-moi, donne-moi 1 000 francs. L'amour, là, c'est quand tu le regardes venir à toi, tu penses à quoi? Si tu lui donnes l'argent, hé, mon gars, pardon, là, si tu ne lui donnes pas, là, il va. Tiens, faut pas dire. Si tu donnes pour te débarrasser de ce prochain, tu ne l'as pas aimé, ton don, elle n'est pas comptabilisée. Dieu estime que c'est du mépris. Ce n'est pas de l'amour, c'est du mépris. L'amour du prochain, c'est la façon dont tu le considères. C'est quand tu lui parles, c'est une manière de le chasser. C'est une manière de lui faire plaisir pour qu'on dise tu es gentil ou quoi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quand tu le remarques, quand tu le vois, tu cherches vraiment son bien? Il y a des biens des personnes, on ne les aide pas, on ne donne pas ce qu'ils attendent. On prend le temps de prier pour eux. Dieu te demande, prête attention aux personnes qui sont dans ton entourage. Aimer son prochain, là, ça veut dire, il ne faut pas faire comme s'il n'existe pas. Tu ne peux pas passer, le monsieur était couché là, il dit, ne fais pas comme s'il n'existe pas. Il existe. La personne qui arrive à côté de toi, qui est en haillon, existe. Ton voisin qui est escroc, aie de la compassion pour lui. L'escroquerie n'est pas une bonne chose. Donc quand tu découvres qui il est, tu as de la compassion. Mais ce n'est pas de l'argent que tu vas lui donner, tu ne vas pas aller faire des affaires avec lui. Tu vas prier pour son âme, tu vas prier pour son salut. Et quand tu te mets à avoir de la compassion pour les personnes qui sont autour de toi, ceux qui sont bons comme méchants, les justes comme les injustes, c'est ainsi que toi-même tu te découvres et Dieu te fait grandir. Amen. Donc, aimer son prochain, ce n'est pas être gentil avec son prochain. Aimer son prochain, c'est être bon envers le prochain. Être bon, c'est savoir dire oui, c'est savoir dire non, tout simplement parce qu'on recherche le bien pour sa vie. Aimer son prochain, c'est ne pas être indifférent aux personnes qui nous entourent. De ne pas faire, c'est ne pas faire comme si ces personnes-là n'existaient pas. Elles existent. Elles sont présentes. Nous les voyons tout le temps. Quand nous quittons notre maison, nous passons à côté d'elles. Il y a des familles qui sont là. Dès que tu quittes ta maison, climatisée, tout ça, juste à côté de toi, il y a des gens qui ont fait des baraques. Ils sont tes prochains. Ton futur se trouve avec eux. Faut pas aller chercher loin. Oui, non, c'est parce que Sanogo qu'elle va prier pour moi. Parce que Sanogo, il est peut-être proche. Mais tu as un prochain que tu sautes tout le temps. On a beau prier pour toi à l'église, ça ne fera rien. La loi et les prophètes inclus dans ce commandement. Dieu dit, aide de la compassion pour eux. Peut-être que le voisin est là-bas, il n'est paresseux. Mais au moins, le fait de t'intéresser à lui, fait que tu vas prier peut-être pour que Dieu le délivre de la paresse. Peut-être qu'il va comprendre, peut-être qu'il ne comprendra pas. Mais au moins, tu n'es pas indifférent. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il n'y a pas trop de personnes. Il y a seulement des gens qui sont autour de nous. Des gens bizarres, des gens normaux, des gens compliqués, tout cela. Mais le prochain sont des personnes qu'on ne peut pas ignorer. Ta belle-sœur, elle est, comment on dit, forte, comment on dit, choco-choco. Elle est ton prochain. Tu vas faire comment? Donc, elle est bizarre. Mais aime-la comme toi-même. Parce qu'il y a des prochains qu'on peut éviter. Tu peux changer de maison. Mais un prochain familial, comment tu fais? Ton jeune frère, toujours vient, grande sœur, donne-moi l'argent. Tu as envie qu'il ne soit pas là. Mais Dieu a fait que c'est ton prochain familial. Alléluia. En priant pour ton jeune frère, tu t'accomplis toi-même. Si tu laisses ton jeune frère, tu n'intercèdes pas pour lui, tu viens jouer aux zélés dans l'église pour prier pour les frères qui ne sont pas tes prochains. Dieu ne t'exauce pas. Hey, tu viens, ton propre frère, ton cousin, tu ne pries même pas pour lui. C'est, tu viens jouer aux zélés dans l'église. Frère, as-tu un problème? Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens, viens. Et tu te mets dans les carrefours là. Jésus-Christ est le Seigneur, croyez. Si quelqu'un est malade, qu'il vient. Et ta famille, et ton frère. Non, mon frère, je n'ai pas prié pour lui. C'est un escroc. Il fait n'importe quoi dans la vie. Mais les gens à qui tu prêches dans la ville, il y a des escrocs dedans. Il y en a des escrocs là-dedans. Tu ne le sais pas. Alors, tu ne te développes qu'en traitant avec ceux qui sont près de toi. En les aimant, en priant pour lui, en ayant de la compassion, de la miséricorde, en faisant en sorte qu'il puisse monter. Il a des fois, il va te demander l'argent, tu ne lui donnes pas. Parce que tu sais qu'il va les prendre pour fumer. Il va les prendre pour aller en boîte. Tu ne lui donnes pas. Il va dire, grand frère, vraiment, mais tu l'aimes. De toute façon, bien, quelquefois tu lui donnes. Parce que faire plaisir aux personnes, ce n'est pas toujours négatif. Quelquefois, ça aide les gens. Amen. C'est-à-dire, des fois, un enfant, il a des désirs, mais de temps en temps, pour son épanouissement, quelquefois, on sait que ce sont des gâteries que l'enfant demande, mais on fait ça juste pour son équilibre, pour lui faire plaisir. Mais on ne le laisse pas dans cette situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, ce n'est pas la gentillesse. Aimer son prochain comme soi-même. C'est différent aussi de donner pour se faire accepter soi-même ou pour se donner de l'importance. Il y a des personnes qui donnent pour qu'on sache qu'ils sont là. Ça, c'est une personne qui a un complexe d'infériorité et qui a besoin de faire des dons pour que les gens puissent, on dit vraiment, pour avoir un petit nom, pour qu'on sache qu'ils sont dans la place, pour qu'on les remarque. Ce n'est pas cela, aimer le prochain. Quelqu'un peut être très libéral, mais a une libéralité dans l'esprit d'être reconnu. Donc, elle ne donne pas pour aider l'autre, mais elle donne pour s'aider elle-même. Vous me suivez? Elle donne pour elle-même se faire un nom. C'est pourquoi Jésus dit ceci, quand tu fais ton aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a fait. Parce que quand tu cherches la reconnaissance, tu tues ton offrande. Tu tues ton don. Amen. Bon, je précise que dans ce cas-là, il parle de l'aumône. C'est pas de, le verset qu'il dit, si tu fais une aumône. Donc l'aumône, c'est le don qu'on fait à ceux qui sont en difficulté. Il peut arriver que dans une offrande, si par exemple on lance une cotisation, il peut arriver que dans une offrande, on sache ce que tu as apporté. Si on dit par exemple, qui veut donner, qui peut donner 1 million pour la construction, tu te lèves, tu n'as pas failli à ce principe. Le principe dit, quand tu fais de l'aumône, voilà, lisez le verset, c'est question, c'est une offrande qu'on appelle aumône, c'est différent des offrandes dans l'ensemble. Amen. Alléluia. Bon, mais tu n'as pas crié aussi, les gars, venez, regardez, ou dire, donnez 100 000 francs. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon. Donc, l'amour du prochain, ce n'est pas, l'amour du prochain, ce n'est pas donner pour se donner de l'importance, ce n'est pas donner pour dominer. Ce n'est pas donner pour dominer. Proverbe 22, verset 7 dit, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Tout le monde sait qu'une personne qui est libérale finit par dominer ceux qui reçoivent. Vrai ou faux? Il y a des, dans la même veine, on est toujours dans le même cas. Tu peux donner à des petits, tout simplement pour qu'on t'appelle « vieux père ». Donc tu arrives, tu vois les petits qui sont autour là. « Tenez !» Donc, ton don n'est pas de l'amour. Ton don, y a des, tu donnes pour manipuler. Tu vas au village, je vais construire un hôpital ici. Oui, c'est parce que tu vas être député. Tu ne les aimes pas. Tu ne construis pas l'hôpital parce que tu veux leur bien. Tu construis l'hôpital parce que tu veux les manipuler. Tu fais la route, tu leur achètes des vêtements pour acheter leur conscience. Ce n'est pas de l'amour. Amen, amen, amen. Il y a des hommes qui se promènent dans le monde là, qui font des donations au ministère chrétien ou bien à des œuvres pour pouvoir acheter leur conscience. En, je ne sais plus, peut-être 2002 ou 2003, là, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit que vraiment, il vient avec des fortunes. Qu'il a vu, ils ont vu mon travail, ils m'ont observé et veut financer mes missions. Moi-même, dans mon esprit, là, quand je regarde, mais on parle en milliards, frère, milliards, pas 50 000 francs, mon ami. Il dit vraiment pour que nous, que ils ont entendu parler de moi, je vais dans le Nord, je parle de Dieu et que je travaille vraiment dans les peuples musulmans, tout ça. Donc, on va me financer, ça va venir progressivement, mais. Et l'esprit me montre qu'en fait, ils veulent m'acheter. Que quelques années après, au début, ils vont me donner, ils vont m'amener à avoir un niveau de vie élevé. Quand tu reçois, même pour faire l'évangélisation, on te donne 500 millions, 1 milliard. Bon, tu as changé ta voiture pour mieux évangéliser. Tu vas changer un peu ta maison. Voilà. Tu vas mettre tes enfants dans une meilleure école. Et c'est ce que ces gens-là font. À un moment donné, ils viennent te dire après, vraiment, on apprécie ce que tu fais, mais on trouve que dans ta prédication, tu es un peu trop brutal envers les musulmans. Sois modéré, doucement, doucement. Tu dis non, la Bible, c'est la Bible. Mais déjà, tes enfants sont dans les meilleures écoles aux États-Unis. Il dit, ah, si tu fais, on va réduire. Et si on réduit, qui va payer l'école de tes enfants, tu vois? Et tout ça, c'était pour acheter ma conscience. Un pasteur a reçu des personnes, là, c'était des financements des homosexuels. Ils sont venus, ils disent, non, ils vont venir, ils vont l'aider, tout ça, là. Après, ils voient que deux sont arrivés, on dit deux bishops. Mais ils voient que les deux bishops, là, sont bizarres. Ils allaient les financer, après, ils disent, non, il ne faut pas prêcher contre l'homosexualité. Oh, ils sont gays. Vous voyez? Et on te met à l'aise. Et puis après, on te dit, comment s'enseigner que Jésus n'est pas Dieu? Des choses comme ça. Et ce sont des subtilités. On peut faire 4 ans de prédication sans parler de l'homosexualité. Donc, le monsieur s'est fait acheter, mais il ne va pas traiter ça dans son message. Il ne peut pas dire la vérité. Parce que de toute façon, la Bible est tellement vaste. Il y a tellement de choses à réprimander ou à dire. Tu n'as pas... Tu peux pas tout dire dans un message. Vous voyez? Mais il y a des dons qu'on fait pour acheter la conscience. Et le Fils de Dieu, les fils de Dieu doivent se garder de le faire. On n'aide pas les gens parce qu'on a envie de les manipuler. On n'aide pas quelqu'un pour l'obliger à venir à l'église. C'est de la manipulation. Toi là, je te donne l'argent, mais tu viens. Tu viens pas à l'église, je te donne plus. Non? Bon, au moins, c'est une manière de le contraindre. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Ça dépend de... C'est relatif, ce que je dis, c'est relatif. Si c'est vraiment pour l'aider à écouter la parole de Dieu, c'est pas mal quand même. Amen. Mais si tu veux acheter la conscience d'une personne, parce que Dieu donne à tout le monde la liberté de choisir, il faut que le cœur des gens soit convaincu de ce qu'ils font. Amen. Dieu n'oblige personne. Le christianisme est une foi assez particulière qui laisse aux gens la liberté de choisir. Il faut convaincre l'autre. C'est tout ce que tu dois faire. Tes enfants, tu dois les amener à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Et ils vont le choisir de leur cœur. On ne naît pas chrétien. On le devient. On l'accepte. On le reçoit. Amen. Alléluia. Donc on ne manipule pas les gens. Il faut qu'ils fassent le choix eux-mêmes. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église ici parce que bon, à la fin du culte, pasteur Sanogo, il aide un peu les frères. Si tu viens pour ça, c'est pas bien aussi. Amen, amen. Ok, nous allons terminer. Et troisièmement, le troisième piège, il ne faut pas confondre l'amour et l'amitié. Aimer son prochain comme soi-même, ça ne veut pas dire sois ami avec tous tes prochains. Tu ne peux pas être ami avec un escroc, mais tu peux l'aimer. Vous me suivez? L'amitié est une valeur, c'est un lien qu'on a avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. L'amitié se mérite toujours. Vous avez des difficultés peut-être à comprendre mon message parce que certains m'ont dit, mais le gars là, il a une trop mauvaise vie, il peut pas être mon ami. On t'a pas demandé de le fréquenter. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jésus ne fréquentait pas tout le monde, mais il aimait tout le monde. Vous me suivez? Amen. En Jean chapitre 15, verset 15, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis. Ça veut dire, à un moment donné, ils n'étaient pas ses amis. Alléluia. Donc, ne croyez pas que aimer son prochain comme soi-même, c'est de faire de tous vos proches des amis. Non. C'est de faire de tous vos proches, c'est d'avoir de la compassion, de la miséricorde, le désir d'aider tous vos proches. Réellement, le désir d'aider. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ne pas être indifférent envers les personnes qui sont proches de nous. C'est ce que ça signifie. Amen. Et c'est de rechercher le bonheur dans leur vie. Alléluia. Mais l'amitié, c'est quelqu'un avec qui on partage ses secrets, ses valeurs. Deuxièmement, dans cet élément-là, aimer son prochain, ce n'est pas l'amitié. Écoutez, ne vous fiez pas de manière générale à l'homme. Beaucoup de personnes pensent que aimer son prochain, c'est de trouver quelqu'un de confiance en qui on peut se confier. Écoutez-moi, il n'y a aucun homme qui est fiable à 100%. C'est-à-dire quelqu'un à qui je peux faire totalement confiance. La Bible dit ça ne marche pas. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Donc, si vous définissez l'amour du prochain comme étant la confiance, ça va vous créer des problèmes. Quand Dieu va te dire, aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'en fait, tu crois que aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, aie confiance en tout le monde. Il ne faut pas avoir confiance. Il ne faut pas te fier aux gens. Mais ça ne veut pas dire, faut te méfier des gens. Ne pas se fier à une personne, c'est différent. Je ne sais pas, il dit, méfie-toi des hommes. Il dit, il ne faut pas te fier. Alléluia. Ne mets pas tes valeurs dans les mains d'autrui, tout simplement parce que l'homme n'est pas fiable. La seule personne qui est fiable, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, verset 24, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. L'homme, un homme, même sincère, n'est pas fiable à 100%. On a des degrés de fiabilité. Un escroc, il n'est même pas du tout fiable. Il y a des degrés de fiabilité. Donc, celui qui est digne de confiance, à qui on peut se fier, c'est Dieu. D'où vient la souffrance et la difficulté d'aimer les gens? C'est parce que vous croyez que aimer, c'est se fier à. Et vous êtes froissé et frustré parce que vous vous êtes fié à une personne et vous avez connu la trahison. Donc, ça crée des blessures dans votre cœur. Mais c'est vous-même qui n'avez pas compris la parole de Dieu qui dit que l'homme là, on ne se fie pas à lui. Mais je n'ai pas dit on se méfie de lui. Amen, amen, amen. Amen. Jésus aimait Judas. Mais quand Judas l'a trahi, celui n'a pas fait mal. Parce qu'en fait, tu aimes les autres sans t'attendre à quelque chose de ton retour. Se fier à une personne, c'est attendre quelque chose d'autrui. C'est attendre une certaine attitude. C'est attendre de l'autre un type de comportement. Et si cette personne n'a pas ce comportement, elle me déçoit. Si vous comprenez l'amour du prochain, il sera très difficile qu'un homme ou qu'une femme arrive à vous décevoir. Parce qu'en fait, vous savez que l'homme même n'est pas fiable. Vous savez, parmi les hommes qui ne sont pas fiables, il y a des gens sincères. Pierre était sincère lorsqu'il a dit à Jésus, « Je ne te renierai jamais. » Est-ce que Pierre était hypocrite? Il était sincère, non? Voilà. Si Jésus se fiait à lui, quand Pierre, après le reniement, là, il allait dire, « Toi, Pierre, devant même une servante, moi, j'avais confiance en toi. Tu ne peux même pas dire que tu marchais avec moi. Pendant 3 années, on a mangé ensemble, on a vécu ensemble. Tu arrives devant une servante, devant 3 personnes. Tu dis, tu ne me connais pas. Et l'homme est mauvais, oh. L'homme est mauvais. Ah, je vous enseigne, Pierre. Et Pierre. Ouais. Quand vous vous fiez aux gens, mettez votre confiance, vous allez connaître beaucoup de déceptions. Mais si vous prenez les hommes tels qu'ils sont, si vous les prenez, quand Pierre a abandonné Jésus, Jésus n'a pas regardé cela, il a regardé le fond de son cœur. Il n'en a pas souffert. D'ailleurs, même lui-même avait annoncé cela à Pierre. Amen. Judas l'a trahi. J'en dis non, ça peut-être. Jésus, il aimait Judas et puis Pierre, hein? Oh, il doit souffrir dans son âme. Et Jésus, Yako. Jésus ne souffrait pas. Jésus ne souffrait pas. Ce qui le faisait plus mal, c'était ce qui leur arrivait à eux-mêmes, pas à lui. L'amour du prochain vous rend grand de cœur et fait en sorte que les hommes ne peuvent pas vous vexer. On ne peut pas vous vexer parce que quand vous aimez, vous n'attendez rien en retour. Vous n'attendez pas. Si la personne arrive à respecter tout ce qu'elle est en train de dire, gloire à Dieu. Mais même une personne sincère, même une personne qui a décidé d'être fiable, peut, à cause des problèmes émotionnels ou des situations d'un moment, elle peut flancher un peu. Mais si vous vous comptez là-dessus, vous êtes appuyé là-dessus, vous allez connaître beaucoup de souffrances et de déceptions. Pierre était sincère, mais il a fini par renier. Tu vas aller voir ta femme, tu dis, femme chérie, je te donnais un secret. Jamais je t'ai dit, tu n'en parles. Non, même pas avant, même le secret là, même c'est ton copain qui te l'a donné. Il dit, mon ami, toi mon frère, voilà un secret. Voici le secret de ma fortune. Mais jamais tu ne dis à qui que ce soit. Et toi l'ami, tu dis, mon frère, tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Jamais je ne dirai quoi que ce soit. Mais un jour dans la causerie de l'argent, vous parlez des fortunes des gens, tu es content le jour là, tu parles à ta femme. Hé, tu sais. Tu dis, chérie, attends, je te donne un secret. Tu n'en parles jamais. Jamais tu ne dis à personne, qui que ce soit. Notre ami, Gaspard, il dit, ah bon, il dit, ah, je n'ai pas trop envie de te dire, il faut laisser. Il dit, chérie, dis-moi, je suis digne de confiance. Oui, Gaspard, c'est toi sa fortune. Mais je ne peux pas tout te dire, hein. Il a fait des pratiques. Lui-même m'a dit, mais c'est entre nous, tu sais que c'est notre ami, oh. On garde. Chérie, on garde. Elle aussi, un jour, elle va voir son pasteur. Pasteur, je te dis un secret. Vous voyez? Ce n'est pas que la femme est mauvaise, mais c'est que l'homme, par rapport aux pressions ou aux joies, je ne sais pas, souvent quand il est excité, là, sa bouche glisse. Jugeons-nous nous-mêmes. Qui peut dire ici qu'il a gardé toujours tous les secrets qu'on lui a confiés? La Bible dit, avant de juger autrui, il faut te juger toi-même. Nous, là, on a qu'à se dire. Ta bouche n'a jamais glissé? Notre bouche a tous les humains sur la terre, ont une fois vu un secret qui est sorti un peu. Il y a des gens qui sont bavards. Eux-mêmes, il ne faut pas te fier à eux. Il faut te méfier. Il y en a d'autres, malgré leur rigueur et leur volonté, il peut arriver qu'ils faiblissent. Donc, tu ne peux pas prendre cela comme étant point de référence pour aimer ton prochain ou pour t'éloigner ou pour ne pas aimer ton prochain. Aime tout le monde. Aime les plus sérieux. Aime les moins sérieux. Amen. Mais c'est différent de te fier à eux, de leur donner ta vie. Le seul être qui est fiable, c'est Dieu. Le seul appui solide, c'est l'Éternel. L'homme est fragile de par sa nature, de par sa constitution. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Donc ceci étant, nous allons nous préparer pour le dimanche prochain maintenant à aborder, les 8 choses à faire, alléluia, pour maintenant appliquer le véritable amour envers le prochain. Il fallait enlever tout ce qui était faux. On a compris que ce n'est pas la gentillesse. On a compris maintenant qui est le prochain. Donc on sait envers qui on doit maintenant se déployer. Amen. On l'a compris. Donc une fois que ces choses-là sont claires dans notre esprit, on a compris, une fois qu'on les a comprises, on peut maintenant expliquer comment on va appliquer l'amour. Mais on ne peut pas t'expliquer à appliquer l'amour si tu ne sais même pas ce que cela signifie exactement. Tu cites le commandement sans comprendre le sens du commandement. Comment peux-tu obéir à un ordre si tu ne sais pas ce que l'ordre te demande de faire? Amen. Amen. Voilà. Tu risques de te tromper, de mépriser tes voisins en allant chercher des gens qui ne sont pas tes prochains. Tu n'es plus en train d'obéir au commandement de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur, l'Éternel. Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il voit en nous les attitudes négatives que nous avons pu avoir envers nos proches. Le rejet que nous avons manifesté ou le mépris que nous avons eu de certaines personnes qui pourtant étaient dans notre entourage. Nous avons ignoré que leur guérison, que notre futur était lié à ces personnes-là, même à proximité. Cet homme, ce prophète, passait par là et cette femme a vu qu'il n'avait pas d'endroit où dormir. Elle a mis pour lui une chambre. Parce qu'elle a reçu ce prochain qui passait, elle a eu un enfant. Sa stérilité a disparu. Elle a été guérie. La veuve de Sarepta ne savait plus ce qu'elle allait manger. Elle n'avait plus rien pour vivre. Et le prophète Élie s'est retrouvé vers elle. Il lui a dit, madame, je veux manger ce que vous avez. La tête dame a obéi à cela. Mieux qu'elle-même, elle a donné tout ce qui lui restait à son prochain, à celui qui était proche d'elle, sans le connaître réellement. Elle ne le connaissait pas. Elle l'avait jamais eu auparavant. Parce qu'elle a écouté son cœur. Elle a aimé son prochain. Sa maison a été pourvue de nourriture tout le temps. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous avons manqué d'aimer, d'avoir de la compassion pour nos proches, pour les personnes qui étaient proches de nous. Pardonne-nous, Seigneur, cela. Et apprends-nous à ouvrir nos yeux. Apprends-nous à ne plus être indifférents. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à ne plus être méprisants. Apprends-nous à considérer, à penser, à prier, à prêter attention aux personnes qui nous entourent, quelle que soit leur attitude. Pas pour suivre les mauvaises attitudes, mais pour prier pour elles, pour avoir de la compassion et pour manifester à leur endroit de la miséricorde. Tu as dit au docteur de la loi, va et fais de même. Agis comme ce samaritain. À nous aussi tu dis ce matin, allez et faites de même.
Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You can...